Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssat Undoy, Lucille Como, Boris Pinot et Grégoire Di Fiore et prise de son assurée ce soir par Inès Bourine. Réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Marie-Josée Sirache, Lucille Como et René Solis. À notre sommaire, Mélancolie, adaptation des Trois Sœurs et d'Ivanov de Tchekhov, mise en scène Julie Deliquet. C'est en ce moment au Théâtre de la Bastille dans le cadre du Festival d'automne. Festen de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov. Adaptation théâtrale de Bo Hansen, dans une traduction de Daniel Benoît, cette mise en scène de Cyril Test en ce moment à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Et puis Le Malade Imaginaire de Molière, mise en scène Michel Didim, en ce moment au Théâtre des Jazés. Aïssat Undoy est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires sur Facebook ou sur Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition « Le Verre, un Moyen-Âge inventif », c'est jusqu'au 8 janvier au musée de Cluny à Paris. Et nous ouvrons en nous rendant au Théâtre de la Bastille pour Mélancolie. D'après Tchekhov, la jeune metteur en scène Julie Deliquet et son collectif In Vitro n'en finissent plus de revisiter Tchekhov. Après un Vania mis en scène par Julie Deliquet, plébiscité à la Comédie Française, elle mixe cette fois les Trois Sœurs et Ivanov, suivant les mêmes principes de création. Une fois sa trame établie, le texte est repris, puis improvisé par les 8 comédiens, mais avec une règle d'or, tous les mots, ou presque, sont de Tchekhov.
Ça va faire bientôt 15 ans.
Oh, c'est respectable.
Voilà. Et je me suis mise à l'aimer dès le premier regard.
C'est admirable. Ça,
oui. C'est vrai, il m'a regardée et clap la souricière.
Oui.
Et puis après, il m'a dit partons. Et voilà, je me suis coupée de tout. Enfin, comme vous savez, on coupe les feuilles pourries avec des ciseaux, et voilà, je l'ai suivi, j'ai tout quitté. Et vous? Vous êtes marié?
Ah non.
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 Et vous avez des enfants?
Non.
Non.
Ah. Enfin, si, si, ben oui.
Voilà.
Oh, vous savez ce qui me ferait plaisir? Ce serait d'aller sur la plage. Oh. Marcher un peu dans le sable, puis
nous. Ah, oui. Là.
Ah bah, c'est possible, non?
Vous prenez le petit chemin, là, à 200 mètres, vous y êtes.
Bon, j'y vais. Allez, hop.
Attendez, le chemin, là, il mène à la plage.
Ah, mais oui, c'est juste là.
C'est possible d'aller voir.
Ah, mais profitez-en, bien sûr.
Non, vas-y.
Oh, désolé, attends-moi, j'y vais avec toi. J'y vais, alors.
Allez, là.
Profitez-en. Fait bon vivre ici, chez vous, hein.
C'est temps quand même aujourd'hui, hein. Incroyable.
Moi j'ai l'impression que si je pouvais vivre dans une grande ville, avec de l'effervescence, du monde, je sais pas, à Moscou par exemple, je crois que je me moquerais complètement du temps qu'il fait.
C'est marrant que vous disiez ça. En venant dans la voiture, on a entendu le témoignage d'un détenu à la radio. Quelle ivresse, quel enthousiasme, il parlait des oiseaux qu'il voyait de la fenêtre de sa prison. Des oiseaux auxquels auparavant il ne prêtait aucune attention. Là, moi je vous parie que quand ce gars-là sera de nouveau dehors, bah, il reprendra ses mauvaises habitudes et qu'il ne regardera plus du tout les oiseaux. Là, vous ferez comme lui, si par chance, je ne sais pas, vous retourniez à Moscou, vous ne verriez plus Moscou. Moi, je sais pas, il me semble que le bonheur, ça n'existe pas. On ne peut que le désirer. Ça n'existe pas. Il me semble.
Mélancolie, c'est en ce moment à l'affiche du Théâtre de la Bastille à Paris. Il y aura une tournée, je donnerai des dates évidemment tout à l'heure, mais enfin ça peut concerner beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, puisque la pièce passera peut-être près de chez vous. Lucille Como, pour commencer.
Oui, alors donc c'est une mélancolie au pluriel, et donc le pluriel renvoie en fait à deux éléments. Il y a le pluriel d'abord des pièces, puisqu'en effet, vous le disiez, il y a deux pièces qui sont assez habilement intriquées dans le spectacle, c'est-à-dire il y a Ivanov et les trois sœurs, donc elle escamote une des sœurs des trois sœurs, et à l'inverse, j'allais dire, il y a un personnage qui se rajoute, qui est donc ce voisin, ami du père des trois sœurs, qui vient les visiter dans leur maison de campagne et qui se trouve en fait être Ivanov avec sa femme malade et tout toute la mélancolie que lui traverse aussi. Et puis il y a évidemment le pluriel du collectif, puisque Julie Deliquet travaille, et ça s'entend, on l'entend d'ailleurs dans l'extrait qu'on vient de diffuser, au plateau beaucoup avec ses acteurs. Elle les fait improviser et puis après elle réécrit les textes. Alors moi, là c'est sans doute une déformation professionnelle, mais vraiment j'en ai super marre d'entendre Tchekhov. Vraiment, je n'arrive presque plus à entendre ces textes-là. Donc là, après Simon Stone, dont on vient de voir aussi les trois sœurs, vraiment j'ai presque du mal à entendre le texte. Donc j'ai tout à fait conscience que c'est une déformation. Enfin là, vraiment, c'est une déformation et que du coup, je peux pas livrer que ça comme opinion sur cette pièce-là. Mais bon, c'est déjà quand même un préalable. J'ai du mal à l'entendre. À mon avis, le répertoire de Tchekhov, il s'use quand on l'entend beaucoup, parce que c'est un théâtre qui joue quand même profondément sur l'émotion, et ces émotions-là, elles s'usent et on a du mal à les réentendre. Et on a beau réécrire Tchekhov, on a beau faire entendre du contemporain là-dedans, changer la diction, multiplier les personnages ou au contraire les réduire, je trouve que ça finit par se réduire à des questions de mélancolie, bon, le titre est là, de suicide, de couple, de beuverie, etc., qui finissent par, pour moi, vraiment devenir des clichés, et je vois pas vraiment comment s'en sortir. Et à mon avis, Julie Deliquet ne s'en sort pas vraiment. Alors la pièce commence, je vais quand même dire quelque chose de positif, la pièce commence par une vidéo qui est projetée sur un rideau en fond de scène qui fait office aussi de porte de la maison. Et cette vidéo, je l'ai beaucoup aimée. Je suis rentrée dedans tout de suite parce que c'est une vidéo donc d'un couple qui est en voiture. En l'occurrence, c'est donc Ivanov. En l'occurrence, il s'appelle Nicolas, mais c'est le personnage d'Ivanov et sa femme Anna. Ils sont en voiture, donc on les voit de face. Ivanov conduit et il y a une voix off qui raconte la fin de cet amour entre les personnages. Ça fait un peu film Nouvelle Vague. On dirait presque du Truffaut. Je me suis dit, quelque chose là peut bouleverser ma vision de Tchekhov, parce que c'est tellement différent, justement, le cinéma Nouvelle Vague de ce que peut être Tchekhov. On casse complètement le naturalisme propre à Tchekhov et donc on va voir autre chose. Et finalement, je sais pas exactement quelle est la fonction de cette vidéo, puisqu'on perd tout à fait cette référence là il y aura plus de vidéo dans le reste de la pièce, et c'est dommage, parce que je pense que, enfin, pour moi, c'est ce qui était le plus intéressant et qui n'est pas vraiment développé.
Une porte d'entrée qui vous a séduit, mais qui s'est refermée assez vite, en effet. René Solis, sur ce spectacle de Julie Deliquet, Mélancolie, en ce moment à la Bastille.
Alors moi, je rebondirais en disant que j'en ai super marre de ne pas entendre Tchekhov, parce que quand même, et on l'entend très bien dans l'extrait d'ailleurs, j'en ai aussi un peu marre d'une certaine façon de surjouer le naturel. Il y a cette histoire d'écriture de plateau et de « on fait comme si on allait aussi vite que le texte », c'est-à-dire comme si on l'avait pas appris avant et comme si tout sortait naturellement et on joue tout ça. Mais voilà, il y a une part de tic qui moi m'agace un peu. Non, surtout j'ai pas passé une mauvaise soirée, c'est-à-dire je trouve pas que ce soit ni médiocre ni mal joué, d'ailleurs j'y reviendrai. C'est juste que je comprends pas très bien ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire que ce mélange de d'Ivanov et des trois sœurs, où on enlève un personnage, ça fonctionne, mais ça fonctionne justement parce que contrairement à vous, je ne pense pas que Tchekhov est usé. Je crois même que c'est incroyablement à chaque fois susceptible d'être un nouveau moteur. Enfin, il y a de l'essence là-dedans. Il y a tout ce qu'on veut pour que ça s'use jamais, justement. Mais je comprends pas très bien à quoi ça rime de mélanger les deux, sinon à se dire tiens, on va essayer de faire quelque chose d'un peu original sur Tchekhov. Mais ce mixte des deux fait qu'on entend un bout des trois sœurs, un bout d'Ivanov, et rien d'autre d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce mariage, cet hybride, ne fait pas un objet nouveau. Il fait juste une soirée autour de Tchekhov, avec Tchekhov comme prétexte, une actualisation de Tchekhov. Alors, on entend, alors, la vidéo, oui, de la voiture au début, oui, mais enfin, bon, effectivement, elle n'en fait pas grand-chose, mais on entend dans l'extrait qu'on a eu que ils étaient en voiture et qu'ils ont entendu l'histoire du type libéré de prison. Alors, c'est du Tchekhov, évidemment, la voiture s'est rajoutée, enfin, la voiture n'est pas forcément rajoutée, mais l'avoir entendu à la radio est rajouté. Mais tout ça, c'est une façon de faire un peu le malin ou la maligne avec le texte. Et moi, j'ai passé toute la soirée à me dire, bon, d'accord, mais enfin, on aurait Ivanov ou on aurait les trois sœurs, ce serait peut-être largement aussi bien. J'ai dit que c'était bien joué, et c'est important quand même, parce que je trouve qu'ils sont bons, en dehors du fait que ces partis pris de l'hypernaturalité, on va dire ça comme ça, moi m'agace un peu, je les trouve, ils tiennent le choc. Le comédien qui joue Ivanov, qui est Éric Charron, si je ne me trompe, il tient le choc très bien. Il est énervant, il a l'éthique, l'énervement de ce mélancolique qui ne s'assume pas et qui, enfin, tout ça marche bien. Et de façon générale, je trouve que le niveau de jeu est de bonne qualité. Et donc, du coup, il y a cette tension là. On les suit, ces acteurs. On les entend, on les écoute. Mais Il y a une... voilà, j'ai eu l'impression que tout ça était quand même un peu vain. Mmh.
Marie-Josée Serrache.
J'ai été très heureuse. Enfin, je suis très heureuse en général d'entendre Tchekhov, parce que je ne m'en lasse pas. Et j'étais très heureuse de cette version et de ce process qui constitue pour moi une approche un peu différenciée, légèrement décalée, où on assiste à un entrelac de mélancolie extrêmement bien vu, bien amené sur le plateau. Je trouve que c'est intéressant de la décliner autour de ces deux pièces importantes, que sont les trois sœurs et Ivanov, et qu'elle est en plein dans son sujet, qu'elle ne le trahit pas, elle ne trahit pas Tchekhov. On est dans la mélancolie, dans ce spleen, dans ce désœuvrement. Je trouve que ces personnages sont bien campés. Elle est très fidèle à Tchekhov, c'est-à-dire ce sont des gens ordinaires, ce ne sont pas des héros dans le sens où ce qu'ils racontent n'a rien d'extravagant, mais on sent sur eux le temps qui passe, qui s'efface, leur impuissance, leur volonté de bien faire, de continuer de vivre malgré tout, malgré la maladie, les morts, les échecs personnels, les faillites dans le travail. Et je trouve que tout ça est extrêmement intelligent, fin, drôle. Vous le rappeliez, René, les acteurs sont magnifiques. Je les trouve bien chacun dans leur personnage. Je veux dire, les petits apartés ne sont pas ni surfaits ni surjoués. Tout est d'un naturel qui fait qu'on est. Moi, je suis complètement entrée dans ce voyage-là. J'ai même pensé très fort à Claude Sauté. Je trouvais que c'était ça me rappelait beaucoup les années 70 de Claude Sauté, que ce soit les choses de la vie ou Max et les ferrailleurs ou encore Vincent, François, Paul et les autres. Enfin voilà, cette façon de faire des groupes avec des hommes et des femmes qui peuvent parler pour ne rien dire, comme c'est le cas, ce qu'on écoutait au début, c'est-à-dire ils parlaient de la météo comme on le fait tous, c'est-à-dire parfois parce qu'on ne sait pas trop comment parler ou quoi raconter ou jusqu'où aller du dévoilement de sa propre intimité ou de ses propres malheurs. Et puis finalement, il y a la météo, et puis de la météo, on passe à autre chose, et le spleen qui est là et qui déborde et qui dit quelque chose de cette société aussi bien à la fin, à l'époque tchékovienne qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on est perdu, les gens sont désenchantés, et le désenchantement, il est intime, il est politique.
Allez, Satoundoy, quelques commentaires peut-être de nos auditrices et auditeurs.
Quelques commentaires pour Christophe Despaux sur Facebook. Tchekhov ne réussit à personne en ce moment, le Deliquet est complètement raté selon lui, et si la version de Simon Stone des Trois Sœurs est plus clinquante et vulgaire, elle est aussi bien mieux jouée. L'agrégation des personnages Ivanov et Vershinin n'aide pas spécialement les interprètes. La merveilleuse polyphonie tchékovienne passe à l'as et on assiste principalement après l'entracte à une sorte de drame bourgeois actualisé avec un enfilement de scènes à faire, autant d'affrontements mal fagotés qui ennuient énormément. Mieux vaut encore l'hystérie tournicotante des trois sœurs dans la version de Simon Stone, conclut-il. Un message d'Anne-Laure Parlement, qui a vu le spectacle à Lorient, qui l'a trouvé sympa mais un peu long, trop proche de ce qu'elle avait vu et découvert, enfin ce qu'elle avait aimé dans Catherine et Christian, un précédent spectacle du collectif. Plusieurs autres messages qui soulignent aussi les longueurs dans le texte. Et Michel Alban qui salue une distribution magnifique, très actuelle.
Bon, bah, grand plaisir en tout cas pour moi, cette représentation de Mélancolie. Je trouve qu'effectivement, j'en ai jamais assez d'entendre Tchekhov et qu'il y a une chose qui se fait depuis plusieurs années en musique qui s'appelle le mash-up, qui consiste à entremêler deux morceaux de musique qu'on peut particulièrement aimer, qui ont a priori rien à voir. Là, en l'occurrence, c'est quand même le même corpus, c'est quand même le même auteur. Et peut-être que, justement, pour renouveler le plaisir d'entendre Tchekhov, qu'on entend beaucoup, bah, elle s'est dit, peut-être que je vais mélanger ces deux pièces-là. Moi, je trouve qu'elle le fait extrêmement bien. Ça veut dire qu'elle a quand même une connaissance très fine de l'œuvre de Tchekhov, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui auraient réussi à faire des coutures aussi fines. Et qu'il y a vraiment, si on commence avec les trois sœurs et qu'on finit avec Ivanov, il y a quelque chose de très, très délicat dans la façon dont cela est fait. Moi, j'avais quand même beaucoup de réserves sur le travail de Simon Stone concernant les trois sœurs. Ici, le collectif In Vitro, moi je le trouve effectivement, je ne suis pas gêné par cette naturalité, c'est ça que vous avez choisi comme mot, René Solis. Moi je trouve, on dit toujours Tchekhov, c'est tellement contemporain, ben, je pense qu'on l'entend particulièrement ici, alors même que, effectivement, même si on rajoute une radio par-ci ou quelque chose de 2017 par-là, il n'empêche qu'il y a quand même l'essentiel, pour pas dire, enfin l'immense majorité des mots qui sont vraiment des mots tchékoviens et qui, tout d'un coup on se dit ah tiens ça sonne un peu désuet comme mot, mais parce que ils sont très près du texte et en même temps ils arrivent à décoller quand même beaucoup. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Alors il se trouve que j'avais vu non seulement les trois heures de Simon Stone deux semaines avant, mais j'ai eu aussi la chance de voir au Conservatoire National Supérieur Dramatique une énième version des Trois Sœurs, mais cette fois le texte, rien que le texte, mis en scène par Claire Lanne d'Arcueil avec ses élèves, et que j'avais vraiment la mémoire très, très, très proche du texte, et que j'étais tout à fait stupéfait d'entendre à quel point il était respecté, à quel point il sonnait différemment, et tout aussi... pour moi, c'est très riche. Enfin, à chaque fois, je me lasse pas comme vous, Lucille Como. Ça me parle à chaque fois. Et même Simon Stone, même si j'ai des réserves, je trouve que ça nous parle, ça nous intéresse et ça rejoint des préoccupations intimes, générales. Enfin, le génie est là, quoi. Lucille,
mais je me pose vraiment la question de ce qu'il y a dans Tchekhov à ce point qui intéresse une génération qui en plus est la mienne pour le coup de metteurs en scène qui tous dans leur note d'intention, c'est encore le cas de Julie Deliquet, parlent de cette convergence entre justement les préoccupations y compris politiques de ces pièces-là et les siennes. Alors pour le coup ça m'intéresse, sauf que je le vois pas dans la pièce, c'est-à-dire que...
Vous voyez pas un monde en fin de course,
moi,
des gens qui s'interrogent?
Moi je vois la mélancolie individuelle, je vois le problème intime, je vois ce qu'on peut appeler maintenant pour le coup en langage moderne, et ça c'est très bien joué, la dépression. Ça je le vois, qu'on me dise que c'est sur la dépression, et que c'est finement joué et finement amené, oui, mais la mélancolie tchékovienne à l'époque elle est articulée à un contexte politique, dans les textes c'est par exemple pour les trois sœurs articulée à la question à la fois générationnelle puisque le père est l'absent dont on parle tout le temps, c'est complètement escamoté dans la version de Liquet. La question de Natacha qui est ce personnage qu'amène le frère des trois sœurs, Camille en l'occurrence là dans la pièce, donc Natacha qui est une personne dont on comprend dans la pièce de Tchekhov qu'elle est issue d'une autre classe, là c'est un petit peu dit mais finalement c'est un petit peu effacé aussi et c'est pas vraiment la question. Donc en fait la question politique et de ce que c'est que potentiellement une mélancolie collective et de ce que ça peut apporter comme révolte, etc. Moi, je ne le vois pas dans la pièce de Julie Deliquet. Et c'est vrai que quand je lis sa note d'intention, c'est troublant parce que j'ai l'impression que du coup, il y a quelque chose dans le projet qui ne fonctionne pas. Moi, je ne vois pas ce que ça me dit du monde, cette pièce-là.
Marie-Josée Sirache ?
Je trouve que ça dit comme Tchekhov à son époque, parce que les personnages de Tchekhov, ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ne disent pas parce qu'ils ne le voient pas. C'est-à-dire le monde autour d'eux s'écroule et eux continuent avec leurs petites préoccupations. Il faut aller dans la datcha, il faut faire ceci, il faut tondre la pelouse, il faut payer les serviteurs. Bon, et autour de tout s'écroule et eux ne voient rien. Et ça, c'est Tchekhov. Aujourd'hui, je pense que l'impuissance de ces personnages-là, c'est plutôt une impuissance. Le sentiment de n'avoir aucune prise sur ce qui se passe autour de nous. On voit bien que le monde se délite de toutes parts. Chaque jour apporte une nouvelle plus effrayante ou plus stupide ou plus incroyable que l'autre. Et on est impuissant. Donc on va le constater, peut-être au détour d'une phrase, après avoir parlé météo, effectivement. Et puis on passe à autre chose. Et c'est ça ce que ça dit aussi Tchekhov aujourd'hui. C'est en ça où il est totalement intemporel. Et je trouve que son travail... Arnaud, vous avez raison. C'est-à-dire que d'abord, il y a une vraie maîtrise, une vraie connaissance de Tchekhov, et elle ne joue pas la fausse adaptation ou la modernisation.
Moi, je ne devrais pas faire la maline, hein, comme disait René. Moi, pas du tout. Je trouve ça fin,
Je trouve ça très fin. Moi, je trouve ça très délicat. C'est de la dentelle. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est un très beau spectacle.
René Solis.
Oui, moi, je voudrais rejoindre ce que disait Lucine, en fait, sur cette histoire de mélancolie et d'intime et de politique. Effectivement, un des reproches que je ferais au spectacle de Julie Deliquesse, c'est de traiter cette histoire-là de mélancolie presque uniquement sur le champ de l'intime. C'est dû aussi au fait que, comme elle coupe les pièces qu'elle fait son petit puzzle, il y a toute une dimension, la dimension justement des rapports sociaux dont vous parliez, de cette bourgeoisie qui est en train de dans un monde qui s'effondre, mais toutes les questions, même la question de l'antisémitisme, on en entend un peu, mais elle est beaucoup moins développée que dans Ivanov en entier, si je puis dire. Et donc il y a là quelque chose qui manque, qui est une dimension collective. Et non pas parce qu'il n'y a pas un collectif d'acteurs, ils fonctionnent très bien comme collectif, mais la dimension politiquement collective, si on peut dire, de ces textes, je la trouve pas beaucoup là.
Lucille ?
Oui, en fait, ce que je trouve bien dans la pièce, c'est aussi ce que je trouve qui fait préjudice un petit peu à cette question politique, c'est le côté, d'ailleurs l'auditeur en parlait un petit peu, dont Aïssatou a lu le témoignage, c'est le côté comédie de mœurs. Moi, je vois beaucoup ça. C'est-à-dire que tout le début, que j'aime plutôt, qui est vraiment, pour le coup, on sent le travail de plateau, où ça circule très vite, la parole est fluide, où on parle en effet de météo, et où on sent que les petits rapports intimes se détricotent et se tricotent autour de la table, ça m'a fait penser à... J'ai noté d'ailleurs dans mon carnet Bakri Jaoui. Ça m'a fait penser à un peu de ce cinéma-là, qui est un bon cinéma et qui fonctionne bien.
Qui est politique.
Je suis pas tout à fait d'accord, non, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, il y a un côté comédie bourgeoise, comédie de mœurs. et je trouve que ça escamote quelque chose de plus profond. Et encore une fois, quand je dis j'en ai marre d'entendre Tchekhov, c'est aussi que j'en ai marre de l'entendre comme ça. Et j'en ai marre qu'on me le serve comme quelque chose de générationnel et de soi-disant représentatif d'un esprit du temps. Et que je ne trouve pas, en fait, auquel je suis toujours un peu frustrée.
Bon, ouais, les questions restent ouvertes là, parce que restent ouvertes plus exactement, puisqu'on serait mieux comme ça, puisqu'on va continuer quand même à parler d'autres spectacles. Rappelez que Mélancolie, l'adaptation des Trois Sœurs et d'Ivanov de Tchekhov par Julie Deliquesse, mise en scène par Julie Deliquesse avec son collectif In Vitro, se donne jusqu'au 12 janvier au Théâtre La Bastille à Paris. C'est dans le cadre du Festival d'automne, et puis pas mal de dates en tournée, du 16 au 20 janvier au Théâtre Romain Rolland à Villejuif, le 10 février la scène Watteau à Nogent-sur-Marne, 22 février au Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux, 2 mars au Théâtre Théo-Argens à Saint-Priest, 6 et 7 mars Comédie de Valence, 16 mars Théâtre de Suresnes Jean Villard, 22 au 23 mars CDN d'Orléans, 27 mars Théâtre des Trois Pierrots à Saint-Cloud, 4 et 5 avril Théâtre de la Joliette Minoterie à Marseille, et enfin le 4 mai au Théâtre du Vélin à Villefontaine. À suivre dans la dispute, Festen et le malade imaginaire.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Alors, suite de cette émission sans liaison dangereuse, j'espère, consacrée ce soir au spectacle vivant, nous rendons aux ateliers Berthier où l'Odéon Théâtre de l'Europe propose Festen de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov, adaptation théâtrale de Bo Hansen en France de Daniel Benoît, mise en scène de Cyril Test. Nous avions parlé ici de Nobody, de Falk Richter, précédent spectacle mis en scène par Cyril Test, qui m'avait, je dois dire, assez enthousiasmé par l'originalité de son dispositif et la qualité aussi de son exécution. Cyril Test propose en effet, c'est bien sûr à nouveau le cas avec Festen, des performances filmiques, ce qui consiste au fait que les comédiens donc jouent sur le plateau, mais aussi un peu en coulisses, et au-dessus d'eux, il y a un écran de cinéma. Deux preneurs de vue se relayent pour réaliser en direct un film qui prend pour unique source, ou presque, ce qui se joue sur le plateau. Donc on voit à la fois une pièce de théâtre sur le plateau, puis un film sur cet écran, au-dessus d'eux, un film qui n'existe que le temps de sa projection, puisque c'est le temps de sa réalisation, sans montage, sans ajout, ou presque. Pièce Festen, devenue film en 98, qui concentre son action autour de l'anniversaire du patriarche qui fête ses 60 ans et qui a donc réuni sa famille autour de lui. Manque à l'appel la plus jeune fille qui s'est suicidée précisément un an plus tôt.
Quoi ? Je me suis rasé à l'aéroport, si tu veux le savoir. Je me suis rasé à l'aéroport, si tu veux le savoir. Oui, je vais bien. Je suis en retard. Je regarde les champs. C'est beau ici. Oui, ça donne envie de rentrer au pays. Mais ce serait problématique. Oui, mais j'y arriverai. Ce sera probablement un choc. De quoi ? Je t'entends plus, là. Ok, salut.
Salut, Christian, salut. Ça va ?
Oui, ça va, ça va, ouais. Ça va ?
Tiens, Michel, tu prends ça sur la desserte.
Oui, je le place avec le vin.
Oui, merci.
C'est mon frère. Et pourquoi tu dis rien ? Eh oh, c'est mon frère, bordel !
Oh, tu te calmes !
Oh, putain, faut que je fasse tout ici, c'est pas vrai. Christian !
Oh, oh merde putain. Alors, mec, je t'encule.
Dis donc, tu m'as l'air bien joyeux, toi. Salut.
Salut.
Regarde. T'as vu ça ? Il a fait tout le chemin à pied depuis Paris, hein, frérot ?
Non, non, seulement depuis la gare.
Ah, nous, on est tombés en panne parce qu'elle a oublié de faire le plein. Faut tout faire soi-même.
Je peux vous aider à porter les bagages ?
Ah non, 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 faut qu'on discute un peu tous les deux. Toi, tu prends les bagages.
Tu veux que je me tape tout ça ?
Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère, mon Dieu, arrête, putain, sinon tu rentres à la maison.
Ta gueule.
C'est pas grave, elle est un peu hystérique. Allez, viens, on va fêter cet anniversaire, on est en retard.
Putain, ça fait longtemps.
Papa est pas arrivé ?
Il doit se cacher quelque part.
Salut, tu t'appelles comment ?
Lars.
Ok, Max, écoute bien. Toujours un peu de mal avec les nouveaux employés, hein, mais maintenant t'es prévenu, ça va aller.
Bonjour.
Bonjour.
Hop. D'après toi, on est qui ?
Bonne question. Qui sont-ils, ces deux frères ? Extrait de Festen, en ce moment à l'affiche de l'Odéon Théâtre de l'Europe. René Solis, pour commencer ?
Bon.
Bah allez. Quoi ? C'est une corvée ? Aïe, aïe, aïe. C'est une corvée ?
Non, non, c'est jamais une corvée d'être à la dispute.
Très bonne réponse.
Non, j'ai trouvé ce spectacle, pour le coup, alors... Autant j'avais des réserves sur Julie Deliquet, mais je reconnaissais quand même que d'abord c'est une bonne soirée, ensuite que les acteurs étaient bons et que le travail était intelligent. Là, je trouve qu'on est, on touche le fond ou le haut du toc. Je suis alors. J'ai plein de problèmes, quand même, il faut dire. Il y en a un, c'est que je suis pas sûr que...
Exprimez-vous, René.
Le premier problème, c'est que je suis pas sûr que Festen soit un si bon film. Je l'ai vu il y a longtemps, fort longtemps. J'en avais pas un souvenir impérissable, en fait. Et c'est un souvenir qui a été en même temps ravivé, parce que j'en ai vu très tôt une adaptation au théâtre. C'était en...
Par Daniel Benoît, justement.
Non, c'était bien avant. Ah. C'était en... c'était à Londres, c'était en anglais.
Ah, pardon, c'est trop chic, excusez-moi.
Très chic.
C'est la René Solis.
Voilà, exactement. Et c'était il y a une bonne quinzaine d'années, et j'avais déjà été pas du tout... Ouais. Ce qui me pose problème dans tout ça, dans cette histoire, dans le film et dans le fait d'en faire un objet théâtral, c'est évidemment c'est la barque, elle est très très lourde, quoi. Cette histoire, elle pèse de tout son poids signifiant, cette histoire de révélation à l'occasion du dîner, de la que le père est un violeur, un salopard, une ordure absolue, et en même temps on purge tout ça à l'occasion du dîner, le linge sale en famille, et tout est quand même incroyablement... Alors c'est bien fait, si on veut, mais c'est incroyablement, tout est fléché. Il y a les bons, les méchants, les lâches, et il y a comme ça une sorte de poids moral de la chose qui, moi, me laisse un peu, pas très convaincu. Et en même temps, c'est évidemment un formidable sujet de tout ce qu'on voudra de téléfilms et éventuellement d'adaptation au théâtre, parce qu'il y a une histoire forte, donc dès le départ, j'étais un peu réticent. Je ne comprends pas ce qu'il fait, en fait, avec son dispositif scénique. On a déjà pas mal vu ça, cette histoire des acteurs filmés des coulisses. Alors, j'ai immédiatement pensé à un autre film et à une autre adaptation à partir d'un film qu'on pouvait critiquer, mais qui était quand même infiniment mieux faite, c'est Le Crépuscule des Dieux, Ivo Vanov, avec les acteurs de la Comédie Française.
Où il y avait Crépuscule, c'est le nouveau spectacle que vous avez dû voir à Amsterdam, sans doute. J'imagine.
Non, Les Damnés, évidemment.
Ou à Hong Kong.
Autant à New York. Autant pour moi. Donc Les Damnés, Comédie Française, Ivo Vanov, où il y avait cette même utilisation, on peut dire, de la vidéo, des acteurs, des coulisses, etc.
C'est pas du tout le même projet, René.
Non, c'est pas du tout le même projet, mais pour le coup.
Performance filmique et avoir de la vie dans un spectacle, c'est pas du tout la même chose.
Pour le coup, une utilisation du... Je suis pas complètement certain. L'utilisation du cinéma dans les damnés par Ivo Vanov de la vidéo me semblait extrêmement maîtrisée, réfléchie,
Non, mais ça, c'est autre chose.
Là, je ne comprends pas ce qu'il veut faire, je ne le comprends pas, et surtout, je ne comprends pas ce que font ces acteurs, sinon, comme on les a attendus, que là aussi, ils sont dans cette sorte de surnaturel, comme ça, et du jeu, sauf que, autant Julie Deliquet, elle a des bons acteurs, autant là, alors je sais pas si c'est eux ou si c'est la direction de Cyril Test, mais il y a quand même un gros problème d'incarnation de tous ces personnages. Je les trouve très faibles, paradoxalement. Et le tout, et là, on a très bien entendu, sur fond d'une pulsation comme ça, musicale, que ça fait penser, là, un peu à Varlikovski, à cette façon de faire le cœur battant du spectacle, comme ça, certaine lenteur. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça toc du début à la fin. Voilà.
Marie-Josée Sirage sur Festen.
Je dois être bon public. Moi, j'ai totalement marché. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est dans la lignée de Nobody, son précédent spectacle. Donc, de ce côté-là, point de surprise. Je trouve que il parle de performance filmique. C'est sa façon à lui de travailler le matériau théâtral. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. C'est même virtuose, quand même, parce que ce qu'il fait dans la maîtrise de l'espace scénique dans les mouvements des acteurs, quand même, pour que tout ça coïncide et rentre, parce que tous les soirs, faut être au même endroit, au même instant, bouger de la même façon. Je trouve ça assez bien maîtrisé. Que le film et que le scénario originel vous déplaisent, c'est une chose, mais voilà, après, il y a le travail, de ce matériau-là, qu'est-ce qu'il en fait? Je trouve qu'il en fait quelque chose. Évidemment, si on sait le sujet, si le sujet vous intéresse pas, ça sert à rien d'aller le voir. Mais là, c'est un secret de famille. Donc, comment ce secret va éclater? Comment, dans le théâtre, en sachant qu'il y a un précédent cinématographique, évidemment qu'il y a eu des mises en scène théâtrales, mais peu de monde les a vues. Mais le film de Vinterberg en 98 a fait un tabac. On a ça comme référent. Et tout d'un coup, au théâtre, je trouve que là, pour le coup, Cyril Test parvient à nous surprendre de nouveau. Et je serais beaucoup moins sévère sur le jeu des acteurs. Je trouve que quand même, les face-à-face entre le père et le fils disent des choses. Les frères, les sœurs, le personnage de la mère ou même de la grand-mère. Enfin, il y a quand même des acteurs qui sont là, qui incarnent bien leur personnage, qui donnent la réplique. Ils sont filmés de près, de loin. Je trouve que le dispositif qu'il met en place permet... Alors, on le sait pour d'autres mises en scène, mais chez lui, vraiment, je trouve que ça fonctionne bien, parce qu'il a une vraie maîtrise de guetter la moindre réaction dans le regard, dans le sourire, dans un haussement de sourcils. Alors, ça nous donne une proximité du jeu de l'acteur qu'au théâtre, on n'a pas forcément, puisque... selon qu'on soit très près ou très loin, quand même, on est dans une vision parfois un peu trouble. Là, l'image projetée sur écran géant fait que on passe de l'un à l'autre et on n'est jamais perdu. On n'est jamais et ça, c'est assez finement mené.
Bon, autre son de cloche, du coup, concernant Festen, à la DO en ce moment, Lucille Como, votre sentiment ?
Alors moi, je suis plutôt d'accord avec René, mais j'ai trouvé ça bien.
D'accord, débrouillez-vous maintenant. Non, alors, allez-y.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vois la lourdeur du dispositif qui est énorme. Vous avez parlé de la vidéo et de la musique, mais il y a aussi des odeurs. Il y a la sonorisation permanente des acteurs. Il y a la musique, en effet, vous le disiez. Il y a cette artificialité de la langue qui fait qu'en fait, on a l'impression d'entendre du doublage tout le temps. Vu que c'est du cinéma, ça fait cet effet-là. Alors moi, je pense en effet que les personnages ne sont justement pas incarné et que ça peut poser un problème de jeu. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Et finalement, je trouve que justement, tout ça, cette lourdeur du dispositif et ce côté en même temps très artificiel, ça sert tout à fait ce qu'est cette pièce. Alors en effet, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est une mécanique. En effet, c'est fléché puisque c'est du donné, c'est-à-dire la révélation de ce secret de famille. Tout est donné. En effet, on sait très bien ce qu'il en est. Et à partir de là, comment reproduire sur une scène la mécanique et la lourdeur en multipliant les dispositifs. Et de ce point de vue-là, je trouve ça quand même vraiment, en effet, virtuose, comme le disait Marie-Jo. Notamment, c'est parce qu'on parle beaucoup de la vidéo, mais quand on regarde ce qui se passe sur scène, on a au centre la salle à manger, où il y a ce fameux dîner, à droite une cuisine, une chambre et une salle de bain à gauche, en fond de scène un petit escalier et des coulisses en effet, mais c'est pas vraiment filmé dans les coulisses, enfin je trouve que c'est pas vraiment exactement ça. C'est filmé partout, les coulisses on s'en fiche un peu, c'est un espace supplémentaire.
Oui, oui.
Mais tout est exploité, les décors tournent, c'est d'une fluidité, enfin moi j'ai rarement vu ça. Moi ça m'a pas tant fait penser aux damnés qu'à ce qu'avait fait Christiane Jataï à la Comédie Française. Ou alors vraiment pour le coup j'avais trouvé ça franchement raté. Là je trouve que c'est un exemple de cinéma sur scène qui fonctionne bien parce que ça sert le sujet, que ça sert vraiment la mécanique terrible qu'est Festen. Moi je suis rentrée à fond du début à la fin, j'ai pas décroché une seule seconde. Et je trouve que ce que font les acteurs, c'est justement très très délicat. C'est une forme de avec ce jeu qui à la fois nous inclut dans une mécanique terrible et en même temps nous exclut parce qu'il y a un côté très artificiel. Moi, je trouve ça vraiment très très bien fait.
Des réactions avec cette Undoï ?
Un message de Ludovic Morin sur Facebook qui constate que cela ne lui pose aucun problème de voir trois versions de Tchekhov la même saison. En revanche, il n'en est pas de même pour les adaptations de films au théâtre. Selon lui, l'utilisation de la vidéo dans Festen nous pousse à nous souvenir du film et nous éloigne de la représentation. Il aurait aimé ne pas avoir vu le film pour profiter pleinement de ce spectacle débordant de moyens et éviter la comparaison.
Alors grande déception pour moi, je vais le dire comme ça très simplement. Et pourtant j'ai noté un virtuose, effectivement, parce que le dispositif, la performance filmique, c'est virtuose. Mais pour moi, la virtuosité, elle tourne complètement à vide ici. Moi, je suis resté très très extérieur à ce qui se jouait devant moi, alors que normalement, les émotions, elles devraient être fortes. J'en ai pas ressenti, pas d'immersion non plus, ce qui est assez étonnant par rapport à ce dispositif. Et l'une des premières notes écrites dans mon carnet, c'est « ça ne joue pas très bien ». Et c'est une impression, hélas, qui a été confirmée au fur et à mesure de la représentation. J'ai pas du tout senti cet effet que vous décrivez très finement, Lucille Como, mais qui pour moi n'a pas agi de la même façon. Mais je crois vraiment que le texte est en cause, hein, pour le coup, René Solé. Je pense que c'est vraiment pas très bon. Quand vous dites que c'est fléché, c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse dire, parce que ça manque terriblement ou de finesse, ou de subtilité, mais enfin, ça tient pas du tout, c'est n'importe quoi, enfin, qui est à ce point pas de réaction quand le fils lève son verre en disant « Papa, tu as violé notre sœur, c'est pour qu'elle s'est suicidée », et le dîner continue une fois, deux fois, trois fois. Non mais enfin, on est d'accord que c'est pas possible.
Non, c'est absolument pas possible. Mais la question de la psychologie des personnages ou de leur rapport réaliste ou psychologique n'est pas la question, à mon avis. Et c'est en ça que le spectacle est réussi. C'est-à-dire qu'il réussit à vider totalement ce qui, à mon avis, est raté dans le film. Parce que du coup, j'ai revu un petit peu des bouts du film. Dans le film, il y a la caméra à l'épaule. Il y a quelque chose de très humain dans la manière de traiter les corps et les personnages. Là, ce ne sont pas des personnes. Ce sont vraiment des éléments d'un ressort qui tournent extrêmement bien.
Enfin, qui tourne très bien, ou alors, comme je l'ai vu moi, à marche forcée, avec vraiment des très très gros sabots. Et en plus, vraiment, il y a quand même un problème de traduction, parce que on a un tout petit peu entendu, une sorte de trivialité du propos sonne vraiment comme une traduction très littérale de l'anglo-saxon, et pas du tout comme une langue qui serait naturelle. Donc, je vous passerai les gros mots, mais qui reviennent de façon insistante et qui sont pas du tout la façon dont on pourrait parler français. Et puis, quand même, je crois que vous n'en avez pas parlé, mais il y a trois grandes parties. Et la troisième partie, il y a une chute de rythme absolument terrible. Toute la fin du spectacle est, dure une infinité de temps. Et là, Cyril Teste ne trouve pas du tout de réponse théâtrale. Il se démène avec des effets visuels, avec des effets sonores, avec ces musiques de drone constantes, mais qu'on a entendues un milliard de fois. Et moi, j'avais dit qu'au moment de Nobody, que j'attendais que Cyril Teste monte un bon texte, parce que déjà, celui de Foix Richter, c'est quand même pas d'une grande subtilité. Et cette attente est toujours d'actualité parce que je pense qu'il tient quelque chose, Cyril Teste, à l'évidence, mais pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Marie-Josée Sirach ?
Je pense que on ne parlerait pas de secret de famille si les gens réagissaient aussitôt. C'est-à-dire que moi, il me semble que la situation est probable quand vous dites une fois, deux fois, trois fois, mais si, sinon, la vérité éclaterait de suite et il n'y aurait pas ce poids-là qu'on peut trimballer parfois sur plusieurs générations. Idem avec Foix Richter, moi j'avais trouvé ça quand même très intéressant, cette façon d'aborder l'aliénation au travail.
Ça marchait mieux
travail,
avec la vie de bureau, on va dire, la performance filmique.
Mais si ce que je voulais juste rajouter, c'est sur le travail des acteurs, parce que finalement, il y a une mise à distance, c'est-à-dire qu'ils sont, je disais incarnés, mais c'est peut-être pas le terme juste, il y a une irréalité dans leur jeu. Et c'est ça qui dégage une ambiguïté qui fait qu'on ne sait jamais si. Et c'est cette idée de doublage, quand vous avez parlé de doublage, qui m'y fait penser. Effectivement, il y a comme un très léger décalage d'une demi-seconde qui fait que, oui, c'est bien lui qui parle, et ça, qui vient nous troubler systématiquement en se disant, ah oui, c'est bien lui qui parle. Voilà, et ça, c'est intéressant aussi, cette façon de travailler le son, l'image et la présence.
Ah ouais, j'ai pas du tout imaginé que ça puisse être voulu, vous voyez. Non, mais c'est vraiment une façon de percevoir différemment la représentation. J'ai l'impression que c'était une faiblesse, vous avez l'impression que c'était une finesse. Bon, allez voir par vous-même Festen de Thomas Vinterberg et Mogens Rekhoff. C'est en ce moment à l'affiche de l'Odéon Théâtre de l'Europe dans cette mise en scène de Cyril Teste jusqu'au 22 décembre. Et puis, grande tournée encore, 10 au 12 janvier au Quai à Angers, 23-27 janvier à la MC2 de Grenoble, du 7 au 11 février au Théâtre du Nord, 20-24 février TNB à Rennes, 8-9 mars, Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, 15 et 7 mars au Théâtre Liberté à Toulon, 20-21 mars, Comédie de Valence, 29 et 30 mars, Le Parvis à Tarbes, 3 et 4 avril, Théâtre de Cornouailles à Quimper, 10-13 avril, Comédie de Reims, 17-18 avril, L'Équinoxe à Châteauroux, 24-26 avril au TAP à Poitiers et enfin du 12 au 16 juin au Célestin à Lyon.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et pour le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, nous intéressons aux Malades imaginaires de Molière, mise en scène Michel Didim. C'est au Théâtre Déjazé, après sa création en janvier 2015 au CDN de Lorraine, dirigé par le metteur en scène mais aussi comédien, puisqu'il campe argent pour une bonne part des représentations, André Marcon ayant assuré les premières, comme il le fera pour les dernières fin décembre. C'est que c'est la dernière pièce de Molière, on sait qu'il mourut une semaine après la première, en sortant de scène à l'âge de 51 ans.
Papa, ma belle m'a dit que vous me demandez.
Oui, venez ça. Avancez, là. Tournez-vous. Levez les yeux. Regardez-moi. Et ?
Quoi, papa ?
Là.
Quoi ?
N'avez-vous rien à me dire ?
Je vous dirai si vous voulez pour vous désennuyer. Le conte de Peau-d'Âne, ou bien la fable du corbeau et du renard qu'on m'a apprise depuis peu.
Ce n'est pas là ce que je demande.
Quoi donc ?
Ah, rusé, vous savez bien ce que je veux dire.
Pardonnez-moi, mon papa.
Est-ce là que vous m'obéissez ?
Quoi ?
Ne vous ai-je pas recommandé de venir me dire d'abord tout ce que vous voyez ?
Oui, mon papa.
L'avez-vous fait ?
Oui, mon papa. Je suis venue vous dire tout ce que j'ai vu.
Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui ?
Non, papa.
Non ?
Non, papa.
Assurément ?
Assurément.
Oh, ça ! Je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi.
Ah, papa !
Ah, petite masque. Vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur.
Mon papa.
Voilà qui vous apprendra à mentir.
Papa, je vous demande pardon, c'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout.
Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti. Puis après, nous verrons au reste.
Pardon, papa.
Non, non.
Pauvre papa, ne me donnez pas le fouet.
Vous l'aurez.
Au nom de Dieu, papa, que je ne l'ai pas.
Allons, allons.
Le malade imaginaire à l'affiche du théâtre Déjazé jusqu'au 31 décembre. Là, on a entendu André Marcon dans cet extrait. André Marcon qui assurera les dernières représentations, je l'ai dit, c'est-à-dire, en l'occurrence, il sera là du 24 au 31 décembre, donc à partir de dimanche prochain. D'ici là, c'est Michel Didim qui signe également cette mise en scène. Marie-Josée Sirage sur ce malade imaginaire.
Oui, le malade imaginaire, donc cette comédie ballet, la dernière de Molière. Moi, je l'ai vu donc avec Michel Didim et Agnès Sourdillon, puisqu'elle joue en alternance
avec Nora Krief.
Ouais. Nora Krief.
J'ai vu la même que vous. Enfin, pas la même, le même soir, mais la même distribution.
Semaine. D'accord, la même distribution. Et je pense que tous les trois, d'ailleurs, nous l'avons. Écoutez, c'est un moment. Voilà, c'est une pièce. Moi, c'est pas ma pièce préférée de Molière. Je crois que j'ai dû la voir il y a 1000 ans.
D'accord. Vous n'avez pas votre âge, très Marie-Jo, je vous assure.
Mais je la trouve toujours aussi agréable, aussi voilà drôle par endroits, un peu moins drôle, peu importe. Je pense que ça pourrait être une belle réussite. Il manque un petit quelque chose dans la mise en scène qui fait que on reste sur notre faim et il y a un petit peu trop de vide ou de parfois on décroche un petit peu. Sinon quand même que les acteurs sont fabuleux. Moi je trouve Agnès Sourdillon merveilleuse d'Antoinette et qui est pas un rôle quand même évident parce qu'il a souvent été joué donc il y a beaucoup de références. Les seconds rôles sont tous présents et très bien présents et jouent, on sent qu'il y a un vrai plaisir. Il intègre dans son dispositif les musiques, la partition, les petits ballets de Lully qui sont complètement, qui sont délicieusement désuets avec ce petit, à un moment donné, ces danseuses égyptiennes qui débarquent. C'est complètement. Il y a le côté farce qui est là. On prend du plaisir quand même à ce spectacle.
Alors, Lucile Como, d'abord, nos auditrices et auditeurs doivent être rassurés depuis tout à l'heure de vous retrouver, puisque vendredi soir, vous étiez souffrante, et donc absente de l'émission, mais vous deviez aller au théâtre voir Le Malade Imaginaire vendredi soir. Vous avez eu un mot du docteur, mais vous avez pu voir une captation.
Oui, mais pas très bonne captation.
Pas très bonne qualité, mais vous avez pu avoir une petite chose, mais vous aviez quand même envie de dire quelque chose là-dessus.
Alors moi aussi, ça faisait 1000 ans que je n'avais pas vu.
C'est vrai
que c'est peu monté. Alors là, pour le coup, Tchekhov, beaucoup. Alors, quid de Molière, moi j'en vois quand même assez peu. Donc ça me...
Des Molières ?
Déjà, oui. Entendre le texte, ah mais...
On en voit beaucoup quand même. Tant mieux.
Au moment que j'en ai pas vu, peut-être Tartuffe, le dernier, Bondy. Bon, alors en l'occurrence, vous parliez de farce. Moi, j'ai vu beaucoup de farce et pas beaucoup d'autres choses dans ce que j'ai vu. Et c'est vrai que Le Malade Imaginaire, et bon, c'est la dernière pièce de Molière, mais il y a quand même quelque chose de grave à la fois dans l'angoisse de ce malade imaginaire, donc qui se croit toujours malade. C'est pas uniquement de la farce, mais aussi dans l'histoire d'amour contrarié entre Angélique et son amant, qui peut-être mériterait d'être traité un peu autrement que uniquement sur le plan burlesque. Et là, bon, je trouvais que ça tourne un petit peu toujours autour du même ton. Voilà.
Très bien.
C'était court,
mais c'était précis en même temps. René Solis, sur cette production du Malade Imaginaire, mise en scène par Michel Didim.
Bon, alors, moi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bons remèdes. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir, en fait, à cette représentation. D'abord, moi, j'aime beaucoup le Malade Imaginaire. Je trouve que c'est une pièce absolument formidable. Je trouve que c'est formidable. En même temps, on sent tellement comment il l'a faite. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est fatigué. Il est effectivement malade. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recycle. Et il recycle des morceaux entiers ou des situations de Tartuffe, du Misanthrope, enfin bon, de Dandin. Et avec ça, il fait une pièce. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'il est fait son malade. Et en même temps, c'est vrai. On peut pas ne pas penser à cette histoire de la pièce ultime, la maladie, la vraie maladie, enfin, etc. Mais, pour le coup, et en même temps, c'est une somme, alors le en même temps, pardon.
Je vous en prie.
Je vais être mis à l'amende. C'est une somme de, alors non seulement de ces grandes pièces comiques, mais c'est aussi le retour, le souvenir des débuts, c'est-à-dire de la farce. Et c'est comme s'il avait tout mis dedans. Je trouve que toutes ces dimensions, on les entend formidablement bien dans le spectacle. Alors, soyons clairs, Michel Didim, hein, il révolutionne pas la mise en scène de Molière avec ça, c'est du basique, mais il a une distribution absolument formidable. Des acteurs qui sont d'un niveau, et qui sont ensemble, hein, puisqu'il y a un effet de troupe, ils jouent sur dans les mêmes registres, dans les mêmes rythmes, ils sont vraiment ensemble. Alors, on a vu effectivement Arnaud, Marie-Jo et moi, la même distribution derrière Didier Messourdillon. Je ne doute pas que la distribution avec Marcon et Nora Krief doit être... J'ai presque envie de revenir les voir rien que pour eux. Je trouve donc qu'on entend formidablement bien toutes les dimensions. La farce, la comédie, le côté tragique, le côté noir, les clins d'œil à lui-même tout le temps et à son propre théâtre. Tout ça est là et en même temps, sans aucune prétention, alors pour le coup c'est un spectacle qui n'est pas du tout toc, qui est même presque, oui, de basique, hein, de toile peinte. Il y a une façon de jouer le ballet et de chanter, là aussi on assume, on le fait, mais c'est vraiment, alors là il prétend pas autre chose que bah, il chante à peu près juste et puis on fait sortir trois danseuses égyptiennes, c'est rien du tout. Et je trouve que de tous les spectacles de Michel Didim, qui réussit pas toujours tout ce qu'il fait, je trouve que c'est très largement un des meilleurs et j'ai pris énormément de plaisir.
Bon, je suis encore une fois en phase avec vous, René Solis. C'est vrai que, alors du coup, j'ai aussi un peu regardé la captation qui était envoyée expressément à Lucille Comeau pour son rattrapage, mais c'est vrai que Marcon, Nora Krief, je vous confirme que ça marche très bien aussi. C'est vrai que Michel Didim, il a cette grande qualité dans la direction d'acteur et que moi, j'ai absolument aimé tous les rôles. Enfin, c'est vrai qu'il y a des... Et que cette dimension farcesque, elle est évidemment tellement assumée que j'ai pris un plaisir total. Et vraiment, il a emporté cette salle. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde au théâtre Déjazé. Je pense que c'est dommage. Il ne faut pas rater ce plaisir simple d'un théâtre de très tôt qui est là pour faire entendre le texte, qui est là pour mettre en valeur des comédiens, alors avec des effets très, très simples. Et moi aussi, les intermèdes musicaux, ça m'a tout à fait réjoui. Alors que justement, je suis le premier à pester contre les comédiens qui chantent et qui ne chantent pas très juste. Là, il y a quelque chose de...
C'est assumé.
Ouais, c'est assumé. C'est éminemment sympathique. C'est un côté... prenons du plaisir simple ensemble avec une pièce. En effet, génial. Alors que le début, je me rappelais plus. Moi, ça faisait pas 1000 ans, mais 500 que j'avais pas vu.
Le début, c'est la barre.
C'est la barre.
Ce début qu'il a choisi là, Argon. Enfin, il y a toute cette dimension où il compte ses pièces, il fait un montage, il fait. Ben, c'est quand même quelque chose de très très étonnant. On se dit, ben disons, il attaque par la pente, par la face nord de l'Everest. Et en fait, c'est une façon de nous entraîner tout à fait. Donc, c'est du mash-up aussi. C'est du mash-up Molière et c'est du mash-up Didim. Ouais, grand plaisir. Vous avez d'autres considérations d'après votre vision?
Oui, alors ce que j'ai vu, c'est aussi la scénographie qui, je trouve, est très simple et pour le coup très belle et efficace. Il y a un plateau sur scène qui est un peu de biais, qui est carrelé. Et en fait, on comprend assez vite que ça représente un peu l'espace social puisque les personnages y montent quand il s'agit de démontrer quelque chose qui a un impact ou un enjeu dans la société de Molière. Et à l'inverse, tout ce qui est un peu de l'ordre de l'intime ou du cachet est à l'extérieur. C'est très très simple, mais ça fonctionne très bien de ce point de vue-là.
Très juste. Marie-Josée Sirache ?
Oui, comme vous, je me suis fait la remarque, la salle n'était pas remplie. Et c'est dommage parce que c'est un spectacle qui mérite d'être vu.
Faisons le savoir ici.
Parce qu'il est appréciable et il est très agréable.
Et heureusement, quand je suis allé, il y avait des scolaires et qui ont pris, comme le reste du public, un très très grand plaisir. Il y en avait quand vous étiez René Solis ?
Oui, aussi. Pas beaucoup, non, parce que c'était en week-end. Ah, donc il y avait pas beaucoup de scolaires.
C'était un soir de semaine et vraiment...
Oui, il faut y aller. Alors, vraiment.
Oui, allez, Déjazé pour voir le malade imaginaire de Molière, mise en scène Michel Didim. C'est jusqu'au 31 décembre au théâtre Déjazé à Paris. Mais avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, et c'est Grégoire Di Fiore qui nous rejoint comme chaque soir pour nous rappeler d'abord la question de vendredi soir et nous donner enfin sa réponse. Quel suspense, Grégoire.
Quel chanteur français fut la vedette du premier roman photo du magazine Nous Deux? Et la réponse était Johnny Hallyday. Oh,
Johnny, encore lui. Et on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Le Vert, un Moyen-Âge inventif. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 8 janvier au musée de Cluny à Paris. Quelle est la question?
Quel ordre monastique n'acceptait à ses débuts que les vitraux sans croix ni couleur?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, c'est sur laquelle vous pouvez réécouter nos émissions. Et quand vous êtes sur cette page, vous dites « Mais est-ce que je suis bien abonné au podcast de la dispute ?» Donc vérifiez. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook ou sur le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, Dispute Musique en compagnie de Sophie Rosemont, Mathieu Conquet et Joseph Ghost sur nos platines « No One Ever ». Ever Really Dies de Nerd, Nivity de Zombie Zombie et Ouf, l'anthologie La Souterraine 2015-2017.